Il est 20h30 à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RFI, 18h30, ton universel. Et pour Afrique Soir, vous êtes avec Marie Cazadebé, bonsoir Marie.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'information dans l'actualité africaine. Ce mini-sommet à Paris consacré à la migration, il réunissait dirigeants européens et africains. Emmanuel Macron propose un plan d'action. Les détails avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Au Kenya, les 7 juges de la Cour suprême commencent l'examen des recours après la présidentielle du 8 août et accèdent à l'une des demandes de l'opposition, l'accès au serveur informatique de la commission électorale. En attendant l'avis définitif de cette cour, la police kenyane est déployée. Une police pointée du doigt par Human Rights Watch pour son attitude dans l'ouest du pays. Dans cette édition, nous verrons aussi pourquoi Boko Haram fait appel de plus en plus souvent à des femmes pour commettre des attentats kamikazes. Des chercheurs américains se sont intéressés à ce phénomène. Et puis le débat sur le franc CFA relancé avec l'affaire Kémi Séba au Sénégal. Le militant sera jugé demain. L'ancien ministre togolais de la prospective Kako Nubukpo estime qu'il faut prêter attention au discours de ce franco-béninois. Il est notre invité ce soir. Les deux côtés de la Méditerranée réunis à Paris pour parler migration. Un mini sommet à l'Elysée a rassemblé dirigeants européens, français, italiens, espagnols, allemands et dirigeants africains, nigériens, tchadiens et libyens. L'idée, c'est de mettre en place une feuille de route sur la question des migrations alors que 140 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. De s'atteler aux différentes étapes de cette migration, aussi des pays de départ à ceux de passage jusqu'aux pays de destination. Pierre Firsion, vous avez suivi pour nous ce sommet. Emmanuel Macron, le président français, a parlé d'un plan d'action.
Oui, Marie, un plan en trois points. Premier point, lutter contre les réseaux de passeurs. Là-dessus, Emmanuel Macron a précisé que la France, avec l'Europe, allait renforcer sa coopération avec les pays d'origine et les pays de transit pour, à terme, démanteler ces réseaux de trafiquants illégaux. Sur ce point, le président français a salué le travail entrepris par le Niger depuis juin 2016. C'est cela que nous voulons généraliser, a-t-il expliqué, en annonçant qu'une aide serait apportée au Tchad et à la Libye pour faire de même. Deuxième point, les pays européens vont approfondir leur action commune pour améliorer la situation sécuritaire en Libye. Enfin, troisième et dernier point, Emmanuel Macron a annoncé des actions très concrètes en amont de ces flux migratoires et en particulier au Tchad et au Niger. Ce qui a été acté, c'est que les ressortissants africains candidats à l'asile pourront désormais faire leur demande depuis ces deux pays-là.
Alors les différents dirigeants donc, qui étaient réunis à Paris se sont exprimés en conférence de presse, notamment le président nigérien Mahamadou Issoufou, et il a rappelé pourquoi le Niger était si impliqué dans la lutte contre l'immigration.
La première raison est morale. Parce que le dirigeant africain que je suis trouve insupportable que des milliers d'Africains viennent mourir dans le désert. Je trouve insupportable que des milliers d'Africains viennent mourir en Méditerranée. Donc je me suis engagé très fortement pour cette raison-là, pour mettre fin à ce fléau, à cette migration irrégulière. Mais aussi le Niger est fortement engagé pour des raisons sécuritaires. Parce que les passeurs qui amènent les migrants en Libye reviennent au Niger avec des armes. Cela nous pose donc un problème de sécurité. Et voilà les deux raisons pour lesquelles le Niger est très fortement engagé dans la lutte contre la migration clandestine.
Mahamadou Issoufou, le président du Niger. Pour le président tchadien, la question ne sera résolue que par le développement. Il faut des ressources, a martelé Idriss Déby, qui souligne aussi l'importance de mettre fin à la crise libyenne, un territoire où les migrants sont victimes des trafiquants, des passeurs, des groupes armés et des forces de sécurité. C'est Antonio Guterres qui l'affirme ce lundi dans un rapport. Xavier Besson, le secrétaire général de l'ONU, appelle les autorités libyennes à relâcher immédiatement les migrants les plus vulnérables.
Parmi les migrants qui sont emprisonnés dans les centres de détention, pour Antonio Guterres, ces personnes vulnérables, ce sont notamment les femmes en danger, les femmes enceintes, les familles avec des enfants, les enfants seuls et les handicapés. En fait, pour ce rapport, une équipe de l'ONU a travaillé depuis le mois de mars pour arriver à cet appel et aussi pour dresser un constat, celui des violences que subissent encore et toujours les migrants quand ils sont en Libye. Violences extrêmes, dit le secrétaire général de l'ONU, travail forcé, détention arbitraire, viol ou encore prise d'otages. Et ces violences, elles viennent de toutes les parties prenantes à cette situation, c'est-à-dire autant les trafiquants, les passeurs, que les membres des groupes armés et les forces de sécurité libyennes. Un rapport qui est publié aujourd'hui alors que le cas de la Libye doit être discuté au Conseil de sécurité, mais aussi à quelques semaines de la date prévue où l'envoyé spécial des Nations Unies, Hassan Salamé, doit dévoiler son plan pour le pays. Ce sera à la mi-septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
La Libye qui, au moment même de la publication de ce rapport, était représentée à l'Élysée par Fayez El-Sarraj pour donc parler de la question des migrations. Pierre Firsion, on vous retrouve à l'Élysée. Emmanuel Macron demain s'adressera aux ambassadeurs de France et il leur dévoilera son projet de conseil présidentiel pour l'Afrique. Qu'est-ce que l'on sait de ce conseil ?
Eh bien, c'est une structure composée de personnalités de la société civile. Comme il s'y était engagé pendant la campagne présidentielle, le président français veut renouveler le partenariat entre la France et le continent. C'est dans cet esprit qu'il va annoncer donc demain la mise en place de cette nouvelle structure, une entité qui sera donc composée d'une douzaine de personnes issues de la société civile. Parmi elles, le footballeur franco-béninois Jean-Marc Adjovi-Boko, la chercheuse kényane Yvonne Bourou, ou encore l'avocat français Yves Justice Jimmy. Leur rôle au sein de ce conseil présidentiel pour l'Afrique, faire entendre un son de cloche différent de celui des conseillers Afrique du président, formuler des propositions concrètes d'action sur des secteurs d'avenir ou encore développer un lien avec les sociétés civiles africaines. Pour ce faire, les membres de ce conseil auront un accès direct au président sans interface, précise-t-on à l'Élysée. Ainsi, ils s'entretiendront avec lui avant chacun de ses déplacements sur le continent. Leur première mission, aider Emmanuel Macron à préparer son discours de politique africaine, un discours que le président français prononcera mi-novembre, sans doute à Ouagadougou.
Pierre Firsion à l'Élysée, si vous nous écoutez en Afrique, sachez que dans le journal de 19h30 temps universel, nous reviendrons sur ce mini-sommet consacré à la question de la migration. Vous entendrez notamment Idriss Déby, le président tchadien. 20 jours après la présidentielle kényane, la Cour suprême commence aujourd'hui à examiner les recours déposés par l'opposition. Raila Odinga conteste la réélection du président Uhuru Kenyatta. Selon les chiffres officiels, le chef de l'État sortant est crédité de 54% des voix. Son opposant crie à la fraude. Les 7 juges de la Cour ont maintenant jusqu'à vendredi pour rendre un avis définitif. Laure Broulard.
La journée a commencé par une victoire pour Raila Odinga. La Cour suprême a en effet autorisé l'opposition à avoir accès aux serveurs informatiques de la commission électorale, mais aussi aux données GPS des kits de transmission des résultats, ainsi qu'aux procès-verbaux originaux. Une bonne nouvelle pour l'équipe légale de l'opposant qui assure que le système informatique de l'IEBC a été piraté et que les résultats annoncés par la commission électorale ne correspondent pas à ceux des procès-verbaux. C'est l'avocat James Orengo, un proche de Raila Odinga connu pour représenter la ligne dure du parti, qui a défendu le dossier en premier. Nous attendons le jour où l'opposition pourra accepter la défaite en sachant que les élections ont été crédibles, a-t-il déclaré. Ses collègues ont ensuite listé de nombreuses irrégularités dans le processus électoral, accusant certains ministres d'avoir intimidé des votants et assurant que les résultats auraient été altérés à l'aide d'une formule mathématique. Des allégations rejetées ce soir, point par point, par les avocats de l'IEBC. La défense dénonce des accusations fantaisistes, demande des preuves et pointe le manque de précision du dossier de l'opposition. La séance a été ajournée à 20h et demain, ce sera au tour des avocats d'Uhuru Kenyatta de présenter leur défense. Laure Broulard, Nairobi, RFI.
Et le temps de cette procédure, la police restera déployée en masse de peur de nouvelles manifestations. L'annonce de la victoire d'Uhuru Kenyatta avait déclenché 2 jours de protestations et d'émeutes, coûtant la vie à 21 personnes. Selon Human Rights Watch, l'usage de la force a été excessif dans l'ouest du pays, dans une région a priori favorable à l'opposition. Diane Henry travaille pour l'ONG à Nairobi.
La police a fait preuve d'une grande violence. Au moins 100 personnes ont été sérieusement blessées après avoir été battues et les policiers ont tiré à balles réelles, non seulement sur des manifestants, mais aussi au cours d'opérations de recherche, maison par maison. Pendant ces opérations, la police était à la recherche de protestataires, mais parfois simplement de n'importe quel homme habitant la maison. Les policiers ont également demandé aux habitants de leur donner de l'argent. Ils ont volé des téléphones ou d'autres appareils électroniques une fois les habitants partis. Cela s'est produit dans la région de Kisumu, mais je voudrais préciser que nous sommes en train de faire des recherches sur ce qui s'est passé ailleurs, au Kenya, notamment à Nairobi, et que nous avons déjà repéré des schémas similaires.
And we're starting to see similar patterns.
Diane Henry de l'ONG Human Rights Watch à Nairobi répondait aux questions d'Anne Kantner. RFI, il est 19h39 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où les drapeaux resteront en berne jusqu'à demain soir. Un deuil national de 2 jours a été décrété ce lundi en mémoire des victimes de l'éboulement qui a provoqué il y a 12 jours maintenant en Ituri la mort d'au moins 140 personnes. Le drame a eu lieu après de fortes pluies sur les bords du lac Albert. Et des rochers se sont détachés d'une montagne pour s'écraser sur un campement de pêcheurs près du village de Tara. À l'autre bout du pays, dans le sud-ouest, les autorités cherchent à protéger certaines industries. Raison avancée, en tout cas pour interdire pendant 6 mois l'importation de plusieurs produits de grande consommation dans cette région. Le ciment gris, le sucre, la bière ou encore les boissons gazeuses. Le ministre congolais du commerce précise que le but, c'est aussi de mettre un terme à la fraude et à la contrebande. Dans le sud-ouest du pays, de nombreux petits commerçants s'approvisionnent en Angola, juste de l'autre côté de la frontière, créant une concurrence déloyale. Et puis toujours en RDC, les médecins des hôpitaux publics ont durci leur mouvement aujourd'hui. Les grévistes n'assurent plus que les urgences et encore dans seulement certains hôpitaux. Cette nouvelle forme de mouvement sera au moins observée jusqu'au 2 septembre. L'ensemble des attaques suicides menées par Boko Haram entre 2011 et 2017 passaient au crible. Les chercheurs de l'Académie militaire de West Point aux États-Unis se sont surtout intéressés aux différentes phases de recours aux kamikazes. Leur rapport a été publié la semaine dernière. Il montre que le groupe terroriste utilise majoritairement des femmes dans ce type d'attaque. Jason Warner est enseignant au département antiterroriste de West Point et co-auteur du rapport.
Le point le plus intéressant qui ressort de notre étude est que Boko Haram est le premier groupe terroriste de l'histoire à utiliser une majorité de femmes pour mener ses attentats suicides. Nous avons établi qu'au moins 56% des kamikazes de Boko Haram étaient des femmes. Nous pensons même que ce chiffre est sous-évalué, mais nous n'avons pu l'établir avec certitude. Nous avons également constaté que Boko Haram a pris la décision d'utiliser des femmes pour ses attentats moins de 2 mois après l'enlèvement des filles de Chibok, les 14 et 15 avril 2014. Moins de 2 mois après, le 8 juin, Boko Haram a envoyé pour la première fois une femme commettre un attentat suicide. À partir de là, l'utilisation de femmes dans ce type d'attaque est montée en flèche. Ils sont passés de 0 femmes kamikazes à une majorité de femmes utilisées pour les attentats suicides. Nous sommes convaincus que Boko Haram a commencé à avoir recours aux femmes parce qu'ils se sont rendus compte à quel point utiliser les femmes, et en particulier de jeunes filles, que ce soit comme victimes ou auteurs de crimes, est une arme puissante pour choquer et répandre la terreur, d'autant qu'impliquer les femmes dans un conflit est généralement considéré comme un interdit.
Propos recueillis par Laura Angela Bagnetto. Au Nigeria, l'ex-ministre du pétrole s'était déjà vu la semaine dernière confisquer de nombreux avoirs, notamment l'équivalent de 44,5 millions d'euros de propriété immobilière. Cette fois, c'est à ses comptes bancaires que s'en prend la justice. Une cour a ordonné aujourd'hui la saisie de 21 millions de dollars. Diezani Alison Madueke est accusée de corruption lorsqu'elle était ministre. Au Burundi, la libération de Fiacre Ndikumana, journaliste d'une radio communautaire de la province de Gitega, dans le centre du pays, après 3 jours de garde à vue. Il avait été arrêté par la police vendredi en compagnie de quelques 70 membres d'une organisation de lutte contre les violences conjugales alors qu'ils étaient en réunion dans un bar de la ville, selon ses collègues. Au Niger, le militant Siraju Issa est depuis hier en garde à vue à la police judiciaire. Des sources proches de cette police, on lui attribue des propos tenus très critiques à l'encontre du Conseil islamique du Niger dans un enregistrement audio diffusé sur les réseaux sociaux. Il reprochait à ce conseil d'avoir fixé au 2 septembre la Tabaski plutôt que le 1er septembre. En Gambie, les préparatifs de cette fête se font dans une plus grande sérénité. Sans Yahya Jammeh, l'ex-président déchu, ça change tout, car la célébration pouvait se révéler dangereuse pour ceux qui ne suivaient pas les directives du Conseil suprême islamique soutenu par l'ancien régime. La correspondance à Banjul de Claire Bargelès.
Mouhidine Aïdara est le leader religieux de sa communauté soufie dans un village de la région de Fony. Et en 2014, à plus de 70 ans, il avait passé 4 jours en détention pour ne pas avoir prié pour la Corité à la date officielle.
Le président a demandé à tout le pays de prier le lundi, mais moi j'ai prié le mardi. Et c'est à cause de cela qu'ils m'ont arrêté. Mais j'ai fait le choix de prier le mardi car au fond de moi, je savais que c'était le bon jour pour prier.
Après des mois de procès, il est sorti libre, mais aura perdu beaucoup d'argent. Alors la Tabaski de cette année a une saveur particulière pour lui et son fils Abbas Haïdara.
Personne n'est assez fou aujourd'hui pour nous arrêter, moi et mon père. On est libre de faire ce que l'on veut, sans peur. On est libre de choisir le jour de prière. C'est notre religion. On ne suit ni le gouvernement, ni personne. On ne suit que le prophète Mohamed et Dieu.
Pour Dambo Fodebojang, le conseiller spécial du président pour les affaires religieuses, c'en est fini de la République islamique décrétée par l'ancien leader. Le nouveau gouvernement n'a plus à forcer les croyants à faire quoi que ce soit.
La Gambie est un état laïque. On a déjà commencé avec la charité. Tous les Gambiens étaient libres de prier quand ils voulaient prier. Donc pour cette Tabaski qui se prépare, c'est pareil. Tout le monde est libre de prier le jour de son choix au moment souhaité. C'est une nouvelle Gambie, un nouveau pays.
Alors qu'importe si le Conseil suprême islamique a annoncé l'Aïd pour vendredi, Mouhidine et sa communauté attendront samedi pour prier quand bon leur semble. Claire Barjolès, Banjul, RFI.
Et puis les Kenyans devront désormais prévoir leurs propres sacs avant d'aller faire les courses. Les sacs en plastique sont désormais bannis dans le pays. Le militant sénégalais Kémi Séba est loin de faire l'unanimité. Lui qui a brûlé un billet de 5000 francs au CFA en public, son geste lui vaut d'être jugé demain à Dakar. Mais aussi de relancer le débat. Faut-il abolir le franc CFA? La question intéresse en tout cas beaucoup l'ancien ministre togolais de la prospective, Kako Noubukpo. Il répond aux questions de Stanislas Ndeichimie.
Kako Noubukpo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des économistes qui appelle à la fin du franc CFA. Est-ce que vous comprenez la tournure judiciaire que prend ce sujet aujourd'hui?
Oui, je crois que, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est signifiant. Et je crois que la procédure que la BICRO intente à l'endroit de Kémi Séba peut donner l'impression que la BICRO souhaiterait interdire un débat qui, à mon avis, devrait être un débat salutaire.
Ne s'agit-il pas d'un personnage qui se saisit du sujet franc CFA pour défendre d'autres causes? Lui dit que les avantages et les inconvénients du franc CFA aujourd'hui ne l'intéressent pas, qu'il se bat contre la servitude.
Pour nous, un certain nombre d'économistes, le franc CFA, c'est la monnaie de la servitude volontaire. Et donc, il est difficile de faire un procès à M. Kémi Séba. Moi, je ne connais pas son histoire spécifique, mais sur le franc CFA, ce qu'il dit me paraît digne d'être entendu.
Même en faisant des actes comme brûler des billets?
Mais vous savez, c'est un débat entre la légalité et la légitimité. Ça renvoie au fameux procès de rupture qui avait lieu à la fin des années 50 à propos des militants du FLN en Algérie. La question, c'est savoir si dans le cadre existant aujourd'hui, il est possible de poser un débat sur le franc CFA. Ce que moi j'observe en particulier, c'est que la BCAO ne veut absolument pas de ce débat. Donc je crois que c'est un débat entre la légalité d'une part et la légitimité d'autre part.
Vous êtes ancien ministre du Togo et vous développiez ces arguments sur le CFA à cette époque-là. Vous savez que les dirigeants des pays qui utilisent le CFA sont dans cette dynamique de maintenir le CFA. Comment vous l'interprétez?
C'est ce que nous appelons la servitude volontaire. Le système CFA sert aujourd'hui une toute petite minorité de dirigeants africains et de grands groupes européens qui bénéficient du trésor français qui permet, dans le cadre du compte d'opération, au franc CFA de rester arrimé à l'euro. Et donc, le mécanisme d'assurance qu'offre le Trésor français aujourd'hui à la zone franc, c'est un mécanisme qui permet de s'assurer contre les défaillances de la gouvernance économique et politique en Afrique. Ce n'est pas un mécanisme qui peut permettre à l'Afrique d'enclencher sa transformation structurelle. Et donc, cette question de la souveraineté monétaire de l'Afrique est une question cruciale.
Lorsque le vice-président de Côte d'Ivoire explique aux étudiants de HEC à Paris que le système CFA aujourd'hui, l'arrimage du CFA à l'euro, c'est une sorte d'assurance, qu'est-ce que vous avez à lui répondre?
Je lui réponds que l'assurance dont on parle est une assurance contre les chocs exogènes qui peuvent affecter les économies de la zone franc. Mais à l'épreuve, il ne s'agit absolument pas de cela. C'est une assurance aujourd'hui contre les défaillances de la gouvernance politique et économique au sein de la zone franc. Et ce que nous disons, c'est qu'il y a trois choses qui posent problème. La première chose, c'est que le franc français n'existe plus et on ne comprend pas pourquoi le franc CFA existe encore. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on fabrique les billets de banque CFA. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas fabriquer les billets de banque CFA en Afrique? Et la troisième chose, c'est que la BCAO, comme la BEAC en Afrique centrale, sont désormais indépendantes de nos États, mais elles vont s'inféoder à un ministère d'un pays étranger, donc le ministère français des Finances, Bercy, pour gérer le franc CFA.
Est-ce que le Nigeria, par exemple, fabrique ses Naira? Est-ce que l'Égypte fabrique ses livres elle-même?
Ce dont il s'agit, c'est que le Nigeria traite avec la Banque centrale d'Angleterre. La BCAO ne traite pas avec la Banque centrale européenne. C'est bien là le scandale. Pourquoi la BCAO, qui est une banque centrale, va traiter avec le ministère d'un pays étranger, le ministère des Finances? Et c'est bien là la différence entre le cas du Nigeria, le cas de l'Égypte, le cas de la zone franc. Les accords de la zone franc ne sont pas des accords de nature monétaire, ce sont des accords de nature budgétaire et je trouve que c'est scandaleux.
Et donc, vous comprenez que la société civile puisse se saisir de ce débat?
Ah oui, Marcel Mauss disait la monnaie est un fait social total. La monnaie n'est pas seulement un fait économique, c'est un fait politique, c'est un fait social, c'est un fait sociétal. Tout citoyen de la zone franc a le droit, pour ne pas dire le devoir, de s'intéresser à la manière dont les pièces et billets qu'il utilise au quotidien sont gérés par la Banque centrale. Il s'agit du contrôle citoyen de l'action publique.
Kako Nubukpo, merci.
Kako Nubukpo, ancien ministre togolais de la prospective, il était avec Stanislas Ndeichimi, il est l'un des auteurs de Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, un livre publié aux éditions La Dispute.
Marie Casadebé.
Il est 18h51 en temps universel. Les grands titres de l'actualité dans le reste du monde, c'est l'ouragan Harvey qui devrait encore faire monter le niveau des eaux au Texas. Au moins 30 000 personnes sont attendues dans des centres d'accueil. Les inondations ont déjà fait 3 morts. Le négociateur en chef de l'Union européenne appelle le Royaume-Uni à commencer à négocier sérieusement sa sortie de l'Union européenne. La troisième session de discussion sur le Brexit a commencé aujourd'hui dans un climat de défiance. En France, le gouvernement a fait sa rentrée aujourd'hui. Le président Macron lui demande du volontariat, de l'ambition et de l'exigence, alors que dans quelques jours, les ordonnances modifiant le code du travail seront publiées. La mort de Mireille d'Arc à l'âge de 79 ans. L'actrice a surtout marqué le cinéma des années 60 et 70, celui d'Yves Robert, Édouard Molinaro ou Georges Lautner. Elle s'était ces dernières années lancée dans la réalisation de documentaires. Et puis le nouveau coup du PSG sur le marché des transferts après Neymar, le club de la capitale s'offre les services de Kylian Mbappé. Le contrat du désormais ex-monégasque fait l'objet d'un prêt d'un an avec option d'achat pour la somme de 180 millions d'euros. Les sports en Afrique maintenant, c'est avec Cédric d'Oliveira. Bonjour Cédric.
Bonjour Marie.
Et avec d'abord du basket féminin et le sacre du Nigeria, nouveau champion d'Afrique.
Oui, en finale, victoire sans appel des Nigérianes face au Sénégal qui était pourtant tenant du titre. 65 à 48, c'était hier à Bamako, leur troisième trophée dans l'histoire de la compétition. 12 ans après le premier, le Mali a lui décroché la troisième place après un succès sur le Mozambique, 75 à 52. Un joli lot de consolation pour le président de la fédération malienne, Jean-Claude Sidibé, qui en profite pour faire le bilan total de la compétition.
Heureux et satisfait, satisfait du fait que nous avons pu relever le défi sécuritaire, parce que certains pays ne voulaient pas venir au Mali, arguant du fait que le Mali n'est pas un pays sécurisé. Nous avons relevé ce défi, le défi de l'organisation a été relevé, et le défi de la participation du Mali aussi, parce que nous sommes sur le podium. C'est vrai que nous n'étions pas parmi les favoris, on était un pays outsider, mais on a joué notre rang. On a perdu de peu contre le Nigeria qui a été vainqueur finalement. Je pense que ça a été un très bon tournoi d'un niveau très relevé. On peut même dire qu'il est très bon parce que franchement, ce Nigeria, il est costaud. Face au Mali, tout le monde a vu que c'était un match très serré, très costaud, où les défenses ont bien joué. Le Sénégal avait une équipe vieillissante, mais une très bonne équipe aussi. L'Angola, qui a été une belle surprise, mais malheureusement, s'est arrêté en quart de finale. Le Mozambique et le Mali qui complètent ce tableau. Je peux dire qu'il y avait 6-7 équipes qui étaient d'un très bon niveau, mais dans l'ensemble, les pays qui émergent aussi, les pays qui commencent à venir dans le basket, bon, un jour feront aussi le pas.
Le président de la Fédération malienne de basket, Jean-Claude Sidibé, il était au micro de Mamadou Kaloga. Le Mali, comme le Sénégal et le Nigeria, sont qualifiés pour les championnats du monde. Ce sera l'an prochain en Espagne.
En football, la trêve internationale a commencé avec au programme des éliminatoires pour le Mondial 2018.
La troisième et quatrième journée de ces éliminatoires, et ça commence jeudi, avec Ouganda, Égypte et Guinée-Libye. De son côté, le Sénégal recevra le Burkina Faso. Les étalons, qui eux sont premiers de leur groupe, qui aborderont, seront des vous diminuez Gabriel Barrois.
Conscient qu'il se déplace à Dakar avec une équipe des étalons sérieusement éprouvés par les blessures, l'entraîneur Paulo Duarte, qui évite de se laisser gagner par le doute, chasse de son esprit toute forme de pessimisme et préfère plutôt trouver les combinaisons qui le feront gagner contre les Lions du Sénégal.
Je vais voir, mais toujours avec l'objectif principal de rapprocher le joueur physiquement, techniquement, pour qu'on arrive au match avec la maxime force.
Le sélectionneur national, qui a une parfaite connaissance de son groupe, est tout à fait capable de constituer une équipe compétitive avec ce qu'il lui reste de joueurs disponibles, affirme Joseph Zangrianogo, président de la commission organisation de la Fédération Burkinabé de football.
Je suis convaincu que Duarte fera le résultat. Nous l'avons vu à l'œuvre au Gabon. On a eu les blessures des deux Jonathan, on a eu d'autres blessures, mais il a trouvé la formule. Vous voyez déjà qu'il a rappelé Kwanda, comme ce qu'il avait fait avec Koulibaly.
Le défenseur Souleymane Kwanda de la SEC d'Abidjan, repêché sur la dernière minute pour remplacer Steve Yago, se retrouve au Portugal où Paulo Duarte et son équipe préparent la double confrontation avec le Sénégal le 2 septembre à Dakar et le 5 du même mois à Ouagadougou. Gabriel Barrois, Ouagadougou, RFI.
Cédric, le football, c'est aussi un nouvel entraîneur pour les Amalek.
La valse des entraîneurs n'est pas terminée après le départ d'Augusto Inacio, qui ne sera resté que 4 mois. Le club Kerot a trouvé son successeur. Il s'agit du Monténégrin Nebojša Jovović, qui vient d'emmener les Jordaniens d'Al-Faisali jusqu'en finale de la Coupe arabe des clubs.
Le marché des transferts n'est pas encore terminé.
Et Liverpool a finalement eu gain de cause. Les Reds, qui courtisent ardemment Naby Keita depuis de longs mois, ont finalement réussi à le faire signer. Selon les médias anglais, le club anglais se serait mis d'accord avec les Allemands de Leipzig pour engager le milieu de terrain guinéen, mais pas avant juillet 2018. Le montant du transfert est estimé à 52 millions d'euros.
Merci Cédric d'Oliveira. Tout de suite, le zapping d'Appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Justement, vous avez parlé football ce matin.
Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Le Cameroun va-t-il se voir retirer la CAN 2019? La question mérite d'être posée après les doutes du président de la CAF sur les capacités du pays à organiser la compétition et après la décision de la FIFA de mettre sous tutelle la fédération camerounaise. Écoutez vos réactions.
Le Cameroun ne devrait que s'en prendre à lui-même. Parce que toutes les situations dont nous sommes victimes aujourd'hui, d'aucuns parlent de conspiration, je ne sais pas conspiration de qui contre qui, certainement des Camerounais contre leur propre camp. Le Cameroun même ne fait rien. Le Cameroun n'est pas prêt pour une Coupe d'Afrique des Nations qui doit respecter un certain minimum de standards. Il n'y a pas que des stades. À l'heure où je vous parle, les hôpitaux sont dans un état lamentable. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie de communication.
C'est vrai que c'est un coup de massue que le Cameroun a reçu par le biais de la FIFA qui disait comme quoi il faut mettre ce qui est une commission. C'est comme une sorte d'acharnement parce qu'il y a quelques semaines, le président de la CAF lui aussi faisait sa sortie, comme quoi le Cameroun n'était pas prêt. Quand même, il y a des infrastructures qui sont sorties du sol. Hein, parce que quand on voit une ville comme Bafoussam, qui a un hôtel quand même de 4 étoiles qui peut accueillir des délégations, et qu'à Garoua, il y a un stade qui a déjà été construit il y a des années. Il faut juste retaper quelques trucs. Bref, sur le plan hôtellerie, on est prêt. Restauration, on est prêt. Et qu'on me dise que le Cameroun n'est pas prêt, ça, ce serait quand même un gros mensonge.
J'estime que ce communiqué de la FIFA est salutaire parce qu'on avait déjà vu venir les flèches de part et d'autre dans le cadre des préparatifs de septembre 2019, avec pas mal de choses qui ont été dites dans les journaux sur les moyens qui sont mis en œuvre pour cette opération-là. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, que le Cameroun est beaucoup trop visible sur la cartographie du football africain pour que la CAF et la FIFA se permettent d'en recevoir un complot contre le Cameroun.
Je ne suis pas un adepte de la théorie du complot, mais tout porte à croire que la CAF et aussi bien la FIFA sont véritablement engagés à nous retirer l'organisation de la CAN 2019. Et pourtant, le Cameroun, jusqu'ici, a offert des garanties, notamment en organisant la CAN féminine en 2017, de la très bonne manière.
Et on se retrouve demain à 8h10 TU pour débattre sur le franc CFA, gage de stabilité pour les uns, prolongement de la colonisation pour les autres, 33 9 693 693 70.
RFI, la sélection du mois.
Chantez-moi.
Jim Murple Memorial.
Encore et encore.
African Salsa Orchestra.
Et mon cago. Ago la manda kato waleo. Akori yacha jumio. Lokori lopiri. La mandeta lagba. Ete wokami.